Alors, aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de m'entretenir avec M. Philippe Archambault, vice-président des communications pour Alto. Bonjour, M. Archambault, comment allez-vous?
Très bien, merci vous-même.
Oui, très bien, je vous remercie encore de m'accorder de votre temps. Monsieur Archambault, je voulais commencer en entrée de jeu. On va percer l'éléphant dans la pièce parce qu'il y a quand même une grosse nouvelle qui est sortie ce matin. Il y a des chiffres qui ont commencé à sortir. En fait, c'est le PDG d'Alto, M. Martin Imbleau, qui aurait affirmé que 1700 propriétés, dont près de 500 terres agricoles, seraient touchées par le tracé du rail du TGV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est?
Ouais, ben comme on l'a déjà mentionné les dernières fois qu'on s'était parlé, donc on est dans la phase d'analyse. Il y a encore des travaux qui se font, des analyses qui se font pour déterminer le tracé qui va avoir le moindre impact possible pour les milieux locaux. Donc ce travail-là se poursuit en ce moment. Donc le chiffre qui a été partagé par Martin Imbleau, c'est une estimation qui est basée selon nos hypothèses de travail actuelles. Donc le chiffre pourrait encore évoluer. On parle de quelques centaines de propriétés qui vont devoir être qui pourraient être impactés, qui devraient se retrouver sur le tracé entre Ottawa et Montréal. Mais comme je le mentionnais, pas de tracé final n'a encore été arrêté, donc le chiffre pourrait évoluer. Mais cet automne, notre engagement a toujours été clair, cet automne, on va présenter un corridor beaucoup plus précis entre Montréal et Ottawa, avec l'emplacement des gares, avec une hypothèse de travail également sur l'emplacement de la voie ferrée. Donc cet automne, on aura plus de précision sur le nombre exact de propriétés qui pourraient être concernées par le projet. Et c'est important aussi de rappeler, je crois que dans plusieurs cas, surtout en milieu agricole et rural, c'est une partie du lot qui serait nécessaire. Donc, Alto va d'abord prioriser l'acquisition de la partie nécessaire du terrain pour le projet. Évidemment, là, chaque situation est unique. Donc, on va négocier avec les propriétaires pour voir quelle est la meilleure option pour limiter les impacts pour les propriétaires.
Pour préciser pour nos éditeurs, est-ce que c'est 1700 et 500 terres agricoles, c'est seulement le segment Ottawa-Montréal?
C'est le chiffre qui a été avancé, effectivement. Donc, on parle d'environ 1700 propriétés qui pourraient être concernées entre Montréal et Ottawa. Donc, je le répète, c'est important, c'est une estimation. De ce nombre-là, environ entre 30 et 40 % se retrouveraient en milieu rural agricole. Donc, c'est des propriétés pour lesquelles une emprise de 60 mètres ou moins pourrait être nécessaire. Donc, c'est pas nécessairement en milieu agricole, c'est pas nécessairement l'entièreté de la propriété qui va être requise pour le projet. Donc, estimation, plus tard cet automne, on aura plus de précision et des chiffres exacts à ce niveau-là.
Et justement, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est l'automne, mais si le PDG, M. Imbleau, a été capable de dire ces chiffres-là, est-ce que vous êtes en avance sur le tracé prévu pour cet automne?
Bien, les consultations se sont terminées le 24 avril, donc c'était il y a moins de deux semaines. Ce printemps, cet été, les analyses techniques vont se poursuivre. En parallèle, on fait également les analyses sur le terrain pour évaluer les impacts environnementaux, notamment, et les impacts locaux. Donc, tout ce travail-là se poursuit ce printemps et cet été. Il va venir alimenter le choix du tracé qui pourrait être présenté cet automne. Donc, on a des hypothèses de travail qui doivent être mesurées, calibrées, avancées, selon tout ce qu'on a entendu pendant les consultations et les analyses techniques qui se poursuivent en ce moment.
Vous devez le savoir, Monsieur Archambault, les agriculteurs sont très inquiets ici dans l'Est ontarien. Il y a le vice-président des cultivateurs franco-ontariens, Monsieur Michel Dignard, qui a dit qu'il s'était entretenu il n'y a pas si longtemps avec Monsieur Imbleau, si je ne me trompe pas. Il a dit que ça n'avait jamais été mentionné, ce chiffre.
Bien, on comprend les interrogations, ça c'est certain, du milieu agricole, de tous les gens qui vont se retrouver dans le corridor. Le processus avance, on prend le temps de bien faire les choses, donc c'est important aussi là, de différencier ce qui sont des hypothèses de travail, de ce qui est des éléments plus précis qui sont confirmés. Donc c'est toujours un équilibre qui est difficile entre trouver le bon niveau d'information à partager, considérant qu'on est encore dans une phase de développement, une phase d'analyse, encore des choses qui vont beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Mais donc la collaboration avec le milieu agricole, avec les associations est importante justement pour qu'on puisse préparer les prochaines étapes. Puis en ce sens-là, nous on a sorti la semaine passée, donc le 30 avril, on a sorti nos 5 engagements envers le milieu agricole. Je pense que c'est important pour nous de venir mettre sur papier, noir sur blanc, quels sont nos 5 engagements envers le milieu agricole.
Et M. Archambault, est-ce que c'est beaucoup 1700 propriétés touchées? Est-ce que ça pourrait être plus aussi?
Encore trop tôt, comme je le mentionnais. Donc, c'est une estimation selon les hypothèses actuelles. Il y a différentes options encore sur la table. Tant qu'un tracé final ne sera pas arrêté, c'est difficile de confirmer un nombre. Chose certaine, pour un projet de train à grande vitesse, on parle d'une emprise de 60 mètres de large. 60 mètres de large, c'est sensiblement la même chose que pour une ligne hydroélectrique, un peu plus petit que pour une autoroute. Donc ça, c'est ce qui va être nécessaire pour le projet à terme. Puis en milieu agricole, ça représente souvent une partie du terrain, donc une petite partie des propriétés qui sont souvent sur plusieurs dizaines d'hectares. Donc ça va faire partie des négociations qui vont pouvoir débuter fin de cette année puis en 2027 avec les propriétaires. Donc quelle partie on va devoir faire l'acquisition et surtout comment on va compenser les propriétaires pour être sûr qu'on offre une indemnisation qui est équitable, qui est à long terme, qui couvre pas juste la valeur marchande des terres, mais également tous les impacts à perpétuité.
Oui, j'allais y venir un petit peu plus tard dans l'entrevue. Je voulais vous parler parce que je pense que c'est il y a 2 semaines que Alto avait complété une autre étape de son étude. C'était les études environnementales, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en avez conclu de ça?
Oui, en fait, le 24 avril, on a terminé notre première phase de consultation. Donc, c'est une phase de consultation qui s'est échelonnée là, de la mi-janvier jusqu'au 24 avril. Donc, on parle d'une centaine de jours. On a organisé 26 portes ouvertes à différents endroits, 10 sessions d'information virtuelles. On avait un portail en ligne également qui a été disponible pendant près de 4 mois. 31 tables rondes également avec des experts locaux, les gens des associations et de l'industrie. Donc, tout ça s'est terminé récemment. On est en train justement de compiler le tout. On va sortir un rapport de consultation en juin. Donc, il va venir résumer tout ce qu'on a entendu pendant les consultations. Donc, les thèmes généraux, les thèmes un peu plus locaux, les craintes, les commentaires, les recommandations qu'on a reçues. Donc, juin, notre rapport de consultation va être publié. Puis également, tous les extraits, tous les commentaires qu'on a entendus pendant cette consultation-là alimentent actuellement le processus d'analyse pour déterminer le tracé final du train. Donc, le tracé qui va avoir le plus de bénéfices possible pour l'ensemble de la population, mais également le tracé qui va réduire autant que possible les impacts pour les gens dans les communautés locales.
Et Monsieur Archambault, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'opposition, surtout des municipalités de Prescott Russell, Champlain, par exemple. Quel poids a justement l'opposition des municipalités dans le processus de développement du projet TGV Alto?
Bien, pour déterminer le tracé, il y a différents critères qui vont être évalués, différentes catégories, évidemment. Puis les commentaires du milieu local, c'est un des commentaires qui fait partie de l'analyse en cours. C'est pour ça qu'on a consulté tôt dans le processus aussi. On voulait aller capter la richesse de ces commentaires-là, des gens qui vivent, qui connaissent le milieu local pour l'intégrer dans l'analyse. Donc oui, ça en fait partie de l'analyse qui est en cours, qui va nous aider, on l'espère, à trouver le tracé qui a le moindre impact. Maintenant, évidemment, quand on parle d'un tracé pour un train à grande vitesse qui va de Québec jusqu'à Toronto, c'est certain qu'il va avoir des impacts locaux. Notre travail en ce moment, c'est de déterminer, avec l'aide de tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a reçu comme commentaire, quel va être le meilleur tracé ou celui qui réduit autant que possible les impacts.
Quelles vont être les premières étapes du processus d'acquisition des terrains par Alto? Comment Alto compte acquérir les propriétés?
Oui, ça va toujours se faire par négociation. Donc, l'approche première, ça va être d'informer, premièrement, les propriétaires qui pourraient être impactés ou concernés par le tracé qu'on va présenter cet automne. Donc, les propriétaires qui pourraient se retrouver sur le tracé vont recevoir une lettre un peu plus tard cette année pour les informer. Ils vont se voir attitrer également une personne, un agent qui va devenir leur point de contact chez nous pour poser les questions, pour pouvoir commencer les discussions également, voir quels sont les impacts pour eux, les moyens de mitigation pour réduire autant que possible les impacts. Le processus de négociation, de discussion un peu plus formelle pour l'acquisition de terrain devrait se faire en 2027, puisqu'on veut se donner encore un peu plus de temps pour avancer l'ingénierie, avancer les analyses techniques, pour être certain que le tracé va être bel et bien fixe et final, donc quelque part en 2027. Donc, si je résume, fin 2026, les gens vont être informés s'ils sont directement dans le corridor plus restreint, plus précis. Fin de cette année, ils vont se voir attitrer un agent avec qui ils vont pouvoir échanger sur la manière de leur choix. Et les discussions pour l'acquisition devraient débuter quelque part là, au milieu 2027.
Je pense que M. Imbleau avait invoqué une approche de vendeur volontaire, acheteur volontaire. Qu'est-ce que ça signifie?
Absolument. Donc, ce qu'on veut, c'est des ententes négociées de gré à gré, là, en bon québécois, pour l'acquisition des terrains qui vont être nécessaires. Donc, c'est-à-dire que la première approche, ce ne sera pas une approche d'expropriation, mais vraiment de s'entendre avec les propriétaires sur quelle partie du terrain est nécessaire et maintenant, quelle serait la meilleure compensation et indemnisation pour l'acquisition de ce terrain-là. Donc, ça va inclure la juste valeur marchande du terrain, évidemment, mais ça va inclure également dans les compensations tout ce qui est impact économique pour les pertes de revenus. Toutes les troubles, par exemple, au niveau de la productivité, au niveau des délais additionnels qui pourraient être nécessaires, ou les mesures spécifiques également. Donc, par exemple, s'il y a une relocalisation de certains bâtiments sur le terrain qui est nécessaire, indemnisation pour certains coûts également liés à la construction. Donc, tout ça va faire partie de la négociation avec les propriétaires pour s'assurer qu'ils ne sont pas perdants dans la transaction. Et les impacts vont être évalués sur le court, mais sur le long terme également. Donc, à perpétuité, c'est le terme qu'on utilise dans le milieu. Donc, à perpétuité, on parle jusqu'à 100 ans pour certains impacts.
Et est-ce que vous en avez des personnes qui sont intéressées, qui disent « Ah, ben oui, moi, ça m'intéresse ».
C'est un commentaire qu'on a reçu de certaines personnes, effectivement, pendant les consultations. Il est trop tôt, là, par contre, pour débuter des discussions pour l'acquisition de terrain, parce que dans un premier temps, bon, on doit déterminer le tracé final. C'est un commentaire qu'on a reçu. On a aussi reçu des gens qui sont inquiets, évidemment, qui ont des craintes par rapport au processus. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu mettre sur papier, clarifier dans les derniers jours quel est notre engagement envers le milieu agricole, envers les propriétaires, détailler davantage le processus pour l'acquisition des terrains, comment ça va se passer, à quel moment. Donc, ça va se préciser encore davantage à la fin 2026. Mais déjà, si les gens vont visiter notre site web, altotrain.ca, il y a une section là, qui vient détailler notre approche pour l'acquisition des terrains qui devraient débuter un peu plus tard.
Quelles modifications le projet de loi C-15 apporte sur sur la loi sur l'expropriation? Quel impact pourrait avoir le projet de loi C-15?
Le projet de loi C-15 vient moderniser ou simplifier le processus d'expropriation. Ça permet d'éviter certains dédoublements administratifs dans le processus. Évidemment, comme je le mentionnais, nous, l'expropriation, c'est un outil qui est dans notre coffre à outils qu'on pourrait pouvoir utiliser dans certaines situations, notamment pour accélérer des transactions où on s'est entendu avec les propriétaires, mais c'est pas l'approche principale. Donc, je le mentionnais, c'est important de le répéter. Je crois notre approche, c'est vraiment de privilégier des ententes négociées avec les propriétaires et notre focus, toute notre attention va être mise là-dessus dans un premier temps.
Comment la compensation est calculée lorsqu'une partie seulement d'un terrain est expropriée?
Chaque situation est un cas par cas. Donc, je le mentionnais, la plupart, notre approche première, c'est d'essayer de suivre la limite des lots dans un premier temps pour éviter justement que des terrains soient segmentés ou coupés en deux. Maintenant, c'est une situation qui pourrait arriver, évidemment, on ne peut pas se permettre des courbes prononcées pour un projet de train à grande vitesse. Donc, au niveau de la compensation, ça va être évidemment pour la juste valeur marchande de la partie du terrain qu'on doit acquérir. Mais ça va également couvrir les impacts, donc par exemple sur la perte de productivité pour le reste de la propriété. Mm-hmm. Ça va couvrir par exemple également si ça veut dire des travaux additionnels pour l'irrigation, si ça implique des temps additionnels pour les propriétaires pour se déplacer de part et d'autre. Donc tout ça va être inclus dans la négociation avec le propriétaire. Donc, les impacts à court et à long terme jusqu'à perpétuité vont faire partie de la discussion. On va aussi regarder des moyens qui sont différents que la compensation financière. Donc, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir rajouter un passage aérien, souterrain à proximité de la propriété pour permettre aux propriétaires de se déplacer? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de mitigation qui pourraient être mis en place pour aider le propriétaire? Donc, tout ça va faire partie des discussions avec les propriétaires là, plus tard cette année puis en 2027.
Est-ce que vous savez déjà quand les compensations vont être versées? Est-ce que ça prend une semaine ou c'est tout de suite?
Mais quand on a une entente avec un propriétaire, les versements peuvent se faire en différents versements. Donc, le paiement peut se faire en différents versements. Un premier versement pourra avoir lieu tôt dans le processus. Donc, ça va faire partie des discussions avec les propriétaires. Mais l'objectif, c'est de réduire les impacts. Donc, si un versement plus tôt dans le processus peut être fait pour certains impacts, ça va être considéré assurément.
Et quelles mesures Alto prévoit aussi pour limiter les impacts sur les terres agricoles?
Un des exemples qu'on a mentionné qui est important, parce que je l'ai beaucoup entendu sur le terrain lorsqu'on était en consultation, particulièrement dans le milieu agricole, c'est préserver les accès routiers. Donc, évidemment, ce qu'on a confirmé à la fin avril, c'est que toutes les routes provinciales, fédérales vont être maintenues le long du tracé. Donc, il n'y a pas de routes fédérales ou provinciales qui vont être impactées par le projet. Okay. On va prévoir des passages à niveau ou passages pardon aériens ou souterrains. Même chose pour les routes municipales principales. Donc, les principales routes municipales vont également être maintenues, ça c'est certain. Ensuite, pour ce qui est des chemins d'accès qui sont utilisés par le milieu agricole, ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec les associations comme l'UPA au Québec ou avec les propriétaires pendant la négociation pour trouver des accès routiers adaptés à l'équipement agricole pour qu'ils puissent aller d'un côté et de l'autre du réseau. Un autre engagement qu'on a mis de l'avant, c'est nos chemins d'accès pour le voie ferrée. Donc, la voie ferrée est clôturée, mais nos voies d'accès pour la sécurité et pour la maintenance vont être en grande partie à l'extérieur de la section clôturée. Et donc, les chemins d'accès du projet de train à grande vitesse vont être accessibles lorsque possible pour les agriculteurs, pour les communautés agricoles. Donc, ils vont pouvoir également l'utiliser pour se déplacer.
Et il y avait une autre nouvelle. Revenons un petit peu plus en ville, au centre-ville, parce que Alto avait, M. Imbleau justement, avait dit que le TGV ne pourra pas passer à la gare d'Ottawa ni à la gare du Palais à Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est pas une option? Donc, ça a complètement été écarté, cette option-là.
Bien, je me permets de préciser. Ce que M. Imbleau précisait, c'est qu'il y a des difficultés techniques évidentes pour chacun des emplacements d'une gare. Donc, construire une voie ferrée et l'ajout de gares dans des villes déjà bien établies, c'est toujours une difficulté. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est de gare du Palais à Québec, pour ce qui est de l'ancienne gare à Ottawa, qui est actuellement la maison du Sénat, on parle d'emplacements qui représentent des défis techniques, qui auraient des impacts également sur les autres activités de la ville en périphérie. Donc, il n'y a encore aucune décision finale qui a été prise, ni sur le tracé, ni sur l'emplacement des gares, mais c'est certain qu'on doit envisager différentes options qui ont tous des avantages, qui ont tous des inconvénients. Et ce que M. Imbleau mentionnait, c'est évidemment certains impacts, certaines difficultés qui viennent avec l'emplacement de gares dans des secteurs bien spécifiques comme la gare du Palais à Québec ou l'ancienne gare à Ottawa.
Et j'ai vu aussi que c'est une possibilité qu'il y ait deux gares à Toronto?
Ça fait partie des choses qui sont à considérer, effectivement. Toronto, quand on regarde la grande région de Toronto, là, le GTA, comme le diraient nos collègues en Ontario, pour s'assurer d'aller chercher le plus de passagers, de plus de gens qui pourraient bénéficier du projet, ça fait partie des choses qui pourraient être envisagées. Une gare secondaire, qu'on appelle donc en périphérie de Toronto, là, quelque part dans les alentours de la grande région de Toronto, pour favoriser l'accès au réseau ferroviaire à grande vitesse.
Et dernière question, M. Archambault, est-ce qu'il va y avoir d'autres rencontres, d'autres consultations pour les citoyens agricoles et toute personne qui voudrait aller s'exprimer ou avoir plus d'informations?
Oui, absolument. Cet automne, donc, on va être de retour sur le terrain avec une session d'information, une session de consultation également pour le corridor beaucoup plus précis. Donc, cet automne, notamment pour le segment entre Montréal et Ottawa, on va présenter un corridor qui va varier de quelques centaines de mètres à maximum 1 kilomètre, à l'intérieur duquel on va être capable de présenter au moment où on se trouve à l'automne où on envisage placer la voie ferrée. Donc, on va retourner en consultation, donc autant auprès des parties prenantes municipales et des organisations, mais également du grand public, des propriétaires fonciers, des agriculteurs qui pourraient avoir des questions pour nous. D'ici là, Notre site web, évidemment, demeure disponible avec toutes les informations qui ont déjà été présentées pendant les consultations de cet hiver, de ce printemps. Donc, c'est encore disponible. Et les gens peuvent aussi communiquer avec nous par courriel pour nous envoyer leurs questions. S'ils ont des questions par rapport aux études de terrain qui ont lieu en ce moment, par rapport aux prochaines étapes du projet, donc on demeure disponible pour répondre aux questions.
Philippe Archambault, vice-président des communications pour Alto. Merci beaucoup pour votre temps, M. Archambault, et au plaisir.
Merci pour l'invitation. À bientôt.
Merci.